L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la vocation est notamment de réfléchir à l'avenir du modèle mutualiste, réalise un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires ». Podcast qui invite au fil des épisodes des grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs, des politiques français ou internationaux. À l'occasion de la 4e rencontre de l'ADES, Association pour le développement des données sur l'économie sociale, dont le thème est « L'ESS, porteur d'un management alternatif ?», la parole est donnée à différents experts ou chercheurs de l'ESS. Précisons que cette 4e rencontre vient clore le cycle organisé par l'ADES et l'Institut Montparnasse sur les porosités et tensions en économie sociale et solidaire. Laetitia Le Tielleux, vous êtes professeure agrégée des universités, sciences de gestion, Université de Reims. Vous êtes titulaire de la chaire Économie sociale et solidaire, responsable de la mention Ressources humaines, responsable du Master Management des entreprises de l'ESS. Bonjour tout d'abord.
Bonjour.
Ma première question est la suivante. Les structures relevant de l'ESS connaissent leur statut et leur fonctionnement démocratique qui en découle, mais ont-elles réfléchi à la manière de penser le management au quotidien pour leurs salariés et ou leurs bénévoles?
Alors, le constat qu'on peut faire au sein de la chaire d'économie sociale et solidaire de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, c'est que très souvent, ils sont focalisés vers l'extérieur, donc sur leur objet, et pas suffisamment vers l'intérieur, sur la manière dont ils vont organiser les relations entre les salariés, par exemple, et les bénévoles. Donc, il y a une vraie nécessité aujourd'hui de réfléchir sur ce lien, justement, entre salariés et bénévoles, l'organisation, parce qu'on a l'impression que c'est plutôt un impensé aujourd'hui, parce que ça va permettre aussi de donner davantage du sens à la fois à l'investissement des salariés, mais aussi des bénévoles, et puis, bien sûr, de se concentrer sur les conditions de travail, qui sont aussi un élément central et essentiel dans toute organisation, dont l'économie sociale et solidaire, pour lequel, on le rappelle, la personne est au cœur de l'organisation.
Alors cette nécessité, est-ce qu'elle est ressentie justement à l'intérieur?
Alors par les salariés, en tout cas que nous on a l'occasion de rencontrer, oui, elle est ressentie, elle est même exprimée, sachant qu'aujourd'hui il y a plusieurs études qui sont faites sur la qualité de vie, par exemple au travail dans l'économie sociale et solidaire, notamment le Quorum qui publie régulièrement des études, qui montrent que les conditions, la qualité de vie au travail, elle est pas meilleure, mais elle n'est pas pire non plus que dans les organisations classiques, conventionnelles. Mais on est en droit quand même d'attendre, par rapport à des organisations qui mettent vraiment au cœur de leur management les valeurs, une qualité de vie au travail qui soit quand même meilleure.
Est-ce que vous êtes en train de dire que là, comme ailleurs, il y a un sujet autour de la fidélisation, autour de l'investissement?
Alors sur la fidélisation, je pense qu'aujourd'hui c'est un véritable enjeu pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrête pas de dire qu'en 2025, c'est demain, il y a 700 000 emplois qui vont être à pourvoir. Donc il y a vraiment une forte attractivité. Il va y avoir un fort besoin aussi pour renouveler tout l'encadrement et beaucoup d'encadrement dans les organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, oui, il faut pouvoir attirer. Pour pouvoir attirer, ça passe aussi par les conditions de travail. Le sens, je pense qu'il y est, parce que je le vois à travers les étudiants que je rencontre dans les différentes formation, fait de choisir, ils choisissent véritablement de rentrer dans des masters ou dans des licences orientées vers l'économie sociale et solidaire, donc c'est un vrai choix, donc il y a une vraie recherche de sens, et ça je pense que c'est vraiment un point très fort pour les organisations de l'ESS, mais il ne faut pas oublier que là aussi, ils sont en attente par rapport aux conditions de travail, à la réglementation juridique, au respect du droit, et on ne peut pas toujours dire, au nom de l'urgence, que c'est secondaire.
D'accord, au nom de l'urgence, au nom du sens aussi.
C'est-à-dire plutôt des missions, parce que le sens, oui, il y est, mais c'est d'accord, plutôt toujours de dire, vite là, c'est urgent, il faut le faire, tant pis si on ne respecte pas totalement les 11 heures réglementaires journalières. Moi, je l'ai déjà entendu, notamment dans des structures qui sont très orientées vers le médico-social et l'urgence. Et je pense que là, attention, danger.
D'accord. Alors, comment on s'y prend? Je veux dire, si on veut faire avancer les choses, si on veut progresser justement sur l'aspect managérial dans les structures de l'ESS.
Alors, un des gros défis et des gros challenges, ça va être de pouvoir inventer, on parle toujours de management autrement, de management alternatif, ça passe aussi par des process, par des outils. Je vais donner un exemple très concret. Aujourd'hui, quand on parle d'une procédure de recrutement, on a tendance à reproduire, on va dire, un déroulé classique d'une procédure de recrutement, comme on pourrait le retrouver dans n'importe quelle autre organisation, qu'elle soit publique ou privée lucrative. Et là, il y a peut-être aussi un défi en termes d'innovation pour les entreprises de l'ESS. Et vous, un recrutement, ça serait quoi véritablement? On entend parler de recrutement sans CV. Est-ce que ça peut généraliser dans l'ESS? De mise en situation peut-être plus fréquente. Est-ce que ça aussi, ça peut généraliser dans l'ESS? Donc, c'est vraiment innover là aussi, dans les pratiques, dans les outils, pour pouvoir vraiment adapter les outils. Là, je prends ma spécialité, hein, la gestion des ressources humaines, dans ces organisations, et que ce ne soit pas une simple transposition qui, finalement, risque de conduire à une perte de sens.
Alors, très concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez utilisé une expression « mise en situation ».
Oui, les mises en situation.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, une mise en situation ?
On en discutait rien que la semaine dernière avec des étudiants de formation continue, et de se dire, ça serait quoi pour vous ? C'est de les mettre dans une situation concrète, ou peut-être d'avoir un recrutement qui soit peut-être plus long, avec plusieurs phases, où on puisse avoir une immersion dans l'association ou dans la coopérative, et de voir comment les gens vont se comporter.
D'accord.
Ça pourrait être un exemple.
Donc des espèces de phases, un petit peu de tests, d'évaluation par les personnes, toutes les personnes en fait, que ce soit les salariés, futurs salariés, ou les personnes qui accueillent.
Tout à fait, par exemple.
D'accord, ça c'est un exemple. Un autre exemple éventuellement ?
Quand on parlait de qualité de vie au travail, c'est vraiment de respecter, par exemple, le respect entre la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Je pense à une étudiante salariée dans une association qui me dit, oui, mais le problème, c'est qu'il y a des bénévoles, ils reviennent à 20h. Moi, on me demande d'être là sur des réunions, ça peut s'étendre de 20h à 22h. Or, j'ai déjà fait ma journée de travail. Très concrètement, qu'est-ce que c'est ? Je dis, c'est du travail, à moins que vous soyez bénévole. Mais dans ces cas-là, il faut vous déclarer en tant que bénévole. Et d'être confronté toujours, finalement, à cette forme de difficulté à concilier les deux, parce que, justement, les emplois du temps de bénévoles salariés et de salariés ne sont pas toujours en adéquation. Il faut trouver des moments de se rencontrer. Donc il y a une vraie réflexion aussi à mener sur ces points de rencontre entre bénévoles salariés, j'insiste, et des salariés classiques, pour éviter ce genre de situation qui nuit à la qualité de vie au travail et au respect aussi du droit du travail.
Vous êtes en train de dire qu'il faut créer de nouvelles instances.
Alors, je ne parle pas d'instances parce que je pense qu'il ne faut pas multiplier toutes ces strates administratives, si je puis dire, mais de réfléchir au cas par cas, c'est vraiment un peu la contingence, sur ce qui paraîtrait le plus adapté pour permettre ces points de rencontre. Aujourd'hui, on a aussi des outils qui nous permettent de communiquer à distance. J'ai rencontré aussi des bénévoles salariés qui m'expliquent que pour eux, c'est difficile parce qu'il faut prendre des RTT, parce qu'il faut se rendre disponible, qu'ils ont leur propre activité. Il ne faut pas non plus décourager le bénévolat. Donc, il faut trouver ces temps de discussion, d'échange, qui permettraient de respecter à la fois les salariés qui sont dans les USS et les bénévoles salariés qui, pour le coup, veulent s'investir, mais là aussi, ont besoin, eux aussi, de pouvoir avoir des temps d'échange avec ces salariés de l'USS avec qui ils travaillent.
Donc, il faut édicter des règles. Peut-être que le mot est un petit peu fort. Non, il ne vous plaît pas. Je vous vois sourciler.
Non, voilà. Édicter, je ne suis pas pour édicter. Moi, je suis pour, justement, que ça puisse venir vraiment dans... Alors là, je vais prendre un autre mot. C'est le management participatif. Je crois que c'est quand même un mot-clé aussi dans l'USS, de pouvoir discuter, de trouver le consensus, d'échanger. Donc, ce n'est pas édicter, c'est pas imposé, il faut que ça vienne des personnes. Mais là, on a repéré en fait différents points de tension. Et par exemple, celui-ci en est un. Et c'est nécessaire, on l'a réalisé dans une étude qu'on avait menée avec ma collègue Monique Comte-Jauré au sein de la chaire, en réalisant par exemple des focus group. Focus group, c'est des réunions où on va pouvoir échanger entre bénévoles et salariés. Et ils se sont rendus compte au bout de 3 heures que finalement, ils avaient plein de choses à se dire, qu'ils avaient des problématiques communes. Ils ont dit, mais pourquoi on n'en fait pas plus souvent ? Ces temps d'échange, on va pouvoir raconter chacun notre quotidien et les difficultés qu'on rencontre. Donc ces temps de parole, ils sont importants.
D'accord, donc il faut vraiment que la parole, elle soit fluide, elle puisse irriguer, je dirais, le quotidien de l'ensemble de ces structures, en tout cas. Mais on est quand même un petit peu à chaque fois dans du cas par cas, on peut le dire comme ça ?
Alors moi, je pense quand même qu'on est dans du cas par cas, parce qu'en gestion, on parle beaucoup de contingences. Je pense que ça, c'est important. On n'est pas là pour dire, voilà, la recette miracle, si y en avait une, on le saurait. C'est vraiment aussi d'écouter les acteurs sur le terrain et de faire en sorte qu'on puisse trouver avec eux une solution qui leur convienne et qui leur permette de pouvoir rétablir des relations, on va dire, saines et d'échanges pour pouvoir réaliser les missions de la structure, puisque c'est quand même leur objectif commun.
Alors, justement, pensez-vous que le management pratiqué dans l'ESS, ou qu'il sera bientôt, selon ce que vous venez de décrire, peut être une source d'inspiration pour les entreprises capitalistiques ?
Alors oui.
Oui.
Pour exemple, j'ai fait une étude sur l'insertion des personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire et je suis tombée sur une structure assez particulière dans une maison de champagne qui fait partie d'un grand groupe de luxe et qui a créé une entreprise adaptée intégrée. Et très concrètement, elle ne s'en cache pas, elle dit on s'est inspiré de l'économie sociale et solidaire et des entreprises adaptées qui ne sont pas forcément intégrées. Elles ont poussé en fait plus loin l'idée, la structuration qui avait été proposée par des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc oui, moi j'ai envie de croire que l'ESS peut inspirer les entreprises capitalistiques.
Alors, dans le fonctionnement ou dans le management, pour le cas
là,
concret ?
Dans le fonctionnement.
Dans le fonctionnement, d'accord. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au management si un jour, on a un petit peu mieux dessiné peut-être la façon de manager ou les façons possibles de manager au sein des structures relevant de l'ESS ?
Alors, il y a quand même déjà une chose qu'on oublie, c'est que justement, dans l'économie sociale et solidaire, on est beaucoup dans cette idée du participatif, de la parole. Aussi, on essaie de trouver un consensus. Donc, la personne est importante dans l'organisation, le principe démocratique. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'organisations classiques, pas toutes, mais que ça commence à se diffuser, qui revendiquent aussi ce management participatif, qui ont vu les vertus du management participatif sur le long terme. Donc, on peut espérer, dans les pratiques de management, que l'ESS a finalement aussi inspiré ces entreprises capitalistiques à travers ce management participatif.
Donc, pour vous, c'est totalement possible, parce qu'il y a quand même des voix un peu dissonantes qui disent qu'on peut appliquer ou faire semblant d'appliquer. Je pense au comité de mission, je pense à tout ce qui relève de la RSE. Pour certaines entreprises, on est quand même un peu dans le greenwashing. Mais est-ce qu'il faut en faire une généralité pour le coup ?
Alors, pour travailler aussi avec des entreprises classiques qui mettent en place des politiques de responsabilité sociale des entreprises, là, je pense qu'il faut aussi un petit peu apaiser le débat, puisqu'on a tendance à dire, voilà, l'ESS, la RSE. Ben, je dirais que c'est l'occasion aussi pour l'économie sociale et solidaire de réaffirmer son identité, de montrer toutes les innovations sociales dont elles sont porteuses, hein, ces entreprises de l'économie sociale et solidaire, depuis maintenant plus de 200 ans. L'ESS a toujours réussi à innover, à l'objectif, c'est de pouvoir répondre à des besoins qui sont peu ou mal satisfaits. Donc, ça peut être l'occasion aussi pour l'économie sociale et solidaire de réaffirmer son identité. Et aujourd'hui, la RSE peut être aussi l'occasion de créer des collaborations entre les structures de l'économie sociale et solidaire et les entreprises classiques. Je prends l'exemple, moi je suis dans le Grand Est, il y a une plateforme d'achat responsable. On a mis en place des ateliers rencontres entre tout type d'organisation sur ces questions de territoire durable, territoire responsable. Et on s'est rendu compte qu'on avait notamment une organisation publique qui cherchait, elle, à pouvoir rentrer dans une politique d'achat responsable et qui ne connaissait pas cette plateforme qui avait été mise en place par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et des structures de l'ESS qui ne savaient même pas qu'elles pouvaient elles-mêmes, finalement, se faire recenser sur cette plateforme. Donc on se rend compte que là, il y a un intérêt, à travers cette politique RSE, qui peut être territoriale aussi, à développer des coopérations sur les territoires entre les organisations. Alors, il n'y a pas que les plateformes, mais en tout cas, à mieux se connaître. Franchement, l'économie sociale et solidaire, depuis que je travaille, ça fait plus de 15 ans dans ce champ, je suis triste de voir qu'on a encore du mal à communiquer, suffisamment communiquer sur ce que font les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et on se rend compte finalement beaucoup souvent de leur importance que dans des périodes de crise, ce qui est vraiment dommage.
Alors avec les nouvelles générations qui arrivent et qui, elles, sont assez prompts à communiquer, notamment via les réseaux sociaux, est-ce que vous sentez un mouvement qui va davantage vers la communication, en tout cas moins de freins ?
Alors, c'est pour ça que là, il y a un vrai enjeu aussi à attirer ces générations dans les structures de l'économie sociale et solidaire, parce qu'alors, eux, ils sont nés vraiment avec cette communication digitale qui, aujourd'hui, est essentielle pour l'économie sociale et solidaire. Je pense que les structures de l'ESS ont vraiment compris cet enjeu. Alors, est-ce que c'est lié au post-Covid ou pas ? Ça, je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas, elles ont vraiment saisi cet enjeu et je pense que ça va être vraiment parmi les profils dont ils vont avoir besoin dans les années à venir.
Bien, merci infiniment, Laetitia Le Tellieu, pour cet éclairage sur l'ESS et la nécessité d'un nouveau management, ou en tout cas d'un management propre à l'ESS qui pourrait inspirer d'autres secteurs. Merci à vous.
Eh bien, je vous remercie.
Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.